qu'on va commencer notre troisième leçon dans notre série « N'aimez point le monde » qui est basée sur le verset, le premier épître de Jean, chapitre 2, verset 15. Alors, la leçon 3, c'est « Quels sont les rapports que nous devons avoir avec le monde? » Alors, on rappelle le verset 1 Jean 2, 15. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Alors, c'est un verset qui parle fort. Alors, on va simplement faire un rappel des six leçons. On a déjà deux de vue. On avait vu dans la première « Qu'est-ce que le monde? » et « Qu'est-ce que signifie aimer le monde? » Dans la deuxième leçon, on avait regardé les 13 raisons pour lesquelles nous ne devons pas aimer le monde. Et ce soir, on va voir quels sont les rapports que nous devons avoir avec le monde. Et dans les prochaines, la leçon 4, quelques applications pratiques de cette doctrine-là. Et dans la leçon 5, d'autres motifs de ne pas aimer le monde. Et dans la leçon 6, comment libérer notre cœur de l'amour du monde. Alors, dans nos deux premières leçons, on avait étudié les deux points suivants. Qu'est-ce que le monde et qu'est-ce qu'aimer le monde? Puis, nous avons étudié les 13 raisons données par la Bible pour ne pas aimer le monde. Nous allons aujourd'hui examiner quel rapport nous pouvons légitimement garder avec le monde. Alors, nous devons considérer les rapports que nous pouvons légitimement garder avec le monde. Les Saintes Écritures ne nous commandent pas d'avoir aucun rapport avec le monde, mais de ne pas aimer le monde. Voici ce que nous pouvons, comment nous pouvons nous relier à la création du Seigneur. Premièrement, nous pouvons étudier avec profit les œuvres de Dieu sur la terre. On a le psaume 111 au verset 2 qui nous dit, versets 2 et 3, « Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. » La création du Seigneur est remplie de sa gloire. Nous pouvons nous émerveiller devant les beautés du ciel étoilé, des animaux, des fleurs, des arbres, des oiseaux, etc. C'est une source inépuisable de plaisir pour les sens et pour l'esprit. L'étude des choses visibles nous enseigne aussi sur les choses invisibles. Comme par exemple dans Romains, chapitre 1, les versets 19 et 20, on lit « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. » Ici, la parole nous apprend que juste l'observation de la nature est suffisante pour, devrait amener à l'adoration, mais les êtres humains sont inexcusables à cause du fait que les perfections sont visibles comme à l'œil, c'est vraiment... Alors, les hommes peuvent savoir qu'il y a un Dieu éternel et omnipotent par l'observation des choses visibles. Dans le 12e chapitre de Job, les versets 7 à 9, on lit « Interroge les bêtes, elles t'instruiront, les oiseaux du ciel, et ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. » Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes ces choses? Alors, la nature est un grand pédagogue. Nous pouvons apprendre sur la puissance du Seigneur, sa sagesse, sa bonté, sa miséricorde et sur tous ses glorieux attributs par la simple observation de la création. La création peut même nous donner des leçons de comportement. Proverbes, chapitre 6, versets 6 à 8. « Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. » La création nous apprendra aussi la soumission à la volonté de Dieu. Psaume 119, le verset 90 et 91. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Alors, si on remarque que les choses sont assujetties à Dieu, bien entendu, ça devrait nous enseigner le fait qu'on devrait l'être nous aussi. Psaume 148, verset 8. Feu et grêle, neige et brouillard, vents impétueux qui exécutaient ses ordres. La création nous apprend aussi qu'il faut s'attendre à recevoir de Dieu. Psaume 145, le verset 15. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. La création nous instruit aussi sur la glorieuse liberté accordée par la main de Dieu. Romains 8, verset 19 à 21. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la volonté, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La création nous enseigne aussi sur le fait que Dieu a prévu un temps pour toute chose. Jérémie, chapitre 8, verset 7. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Alors la deuxième chose qui sont dans nos rapports avec qu'on peut avoir avec le monde, on peut prier pour les choses du monde. Proverbes chapitre 30, versets 8 et 9. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise « Qui est l'Éternel ?» ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Alors, bien entendu, Luc 11, verset 3, dans le Notre Père, le Seigneur nous enseigne à prier et il nous dit de dire « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. » Philippiens, chapitre 4, verset 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La troisième chose qu'on peut faire dans nos rapports avec le monde, on peut employer les moyens légitimes pour assurer notre subsistance. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 10 à 12. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Éphésiens, chapitre 4, verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Alors ici, il y a un verset qui nous apprend que non seulement on travaille pour nos propres besoins, mais nos surplus doivent servir à ceux qui sont dans le besoin. Acte 20, versets 34 et 35. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quatrième chose qu'on peut faire dans nos rapports avec le monde, on peut les utiliser, mais sans en abuser. 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 29 à 31. « Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. » Le deuxième point qu'on va regarder, c'est comment utiliser les choses du monde bibliquement. Alors, comment un homme peut-il utiliser les choses du monde sans en abuser? Voici 6 façons d'utiliser la création de Dieu légitimement. Premièrement, utiliser les choses pour la fin que Dieu les a créées. 1 Corinthiens 10, verset 31. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Deuxième façon d'utiliser la création de Dieu légitimement. Marchez avec Dieu dans l'usage des choses du monde et répondez à son appel. Michée, chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 2, dans la version Darby. Au reste, ce qui est requis dans des administrateurs, c'est qu'un homme soit trouvé fidèle. Lorsque Dieu nous commande de donner aux pauvres, nous devons répondre en donnant. Lorsque Dieu nous invite à nous humilier, humilions-nous. Lorsque Dieu nous commande à être joyeux, soyons joyeux. Lorsque le Seigneur nous demande de sympathiser avec ceux qui souffrent, sympathisons. Lorsque le Seigneur nous commande de se réjouir, réjouissons-nous, etc. C'est ce que ça voulait dire, répondez à son appel. Il nous fait des appels constants à travers les Écritures. Répondre à son appel, c'est-à-dire obéir à ce qu'il nous commande. Troisième façon, utiliser les choses du monde pour promouvoir notre bien spirituel et celui des autres. Romains 8, verset 28, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Matthieu, chapitre 5, verset 16, « Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Quatrième façon, utiliser les choses du monde légèrement et considérer les choses de Dieu et de votre âme comme votre principale activité. Jean, chapitre 6, verset 27, le Seigneur Jésus lui-même dit « Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau. » Cinquième façon, usez des choses du monde avec modération et surveillez vos affections pour les garder en Dieu. Philippiens, chapitre 4, verset 5, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. » Dans la King James, le mot « douceur » est traduit par « Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. » Alors, on se doit d'utiliser les choses du monde avec modération. 1 Timothée, chapitre 3, verset 2, bien sûr, c'est un verset qui s'adresse pour les pasteurs évêques, mais dans le fond, ça s'applique aussi à tout chrétien. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Sixième façon, Rappelons-nous que nous devons rendre compte de ce qui nous a été donné dans le monde. Nous devrons rendre compte de tout ce qui nous a été donné sur cette terre. Conjoints, enfants, parents, frères et sœurs, santé, biens, argent, talent, etc. Matthieu 25, verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Luc 16, verset 2. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » Romains chapitre 14, verset 12. « Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Des fois, juste à y penser, ça fait peur un peu de devoir rendre compte d'absolument tout ce que le Seigneur nous a donné. Il est sûr que fort probablement que dans certains cas, on ne l'a pas utilisé bibliquement ou sagement ou fidèlement. Mais c'est sûr que les péchés nous sont pardonnés, mais il reste que le Seigneur va nous demander des comptes sur toutes choses. Et le troisième point qu'on va regarder, aimons les bonnes choses. Et la chose à considérer, c'est de garder les choses dans une bonne perspective. Les choses de la création de Dieu sont très petites si nous les comparons aux choses spirituelles ou à la bonté de Dieu. Les choses de ce monde ont tendance à nourrir nos convoitises et notre corruption. Elles servent souvent à nous détourner de Dieu, à nous décourager de pratiquer le bien et à nous corrompre. C'est pourquoi le Seigneur nous commande de ne pas aimer le monde, même s'il est possible d'en utiliser bibliquement et légitimement. Deuxième point, rappelons-nous le bon usage des choses du monde. Dans la mesure où les richesses et les choses du monde peuvent être utilisées pour promouvoir et faire avancer notre intérêt spirituel pour le Christ, nous pouvons en jouir légitimement. Nous devons toujours garder la bonne priorité. Tout doit être subordonné à l'amour de Dieu. Donc, dans la question des priorités, reconnaissons aussi notre récompense. Les croyants doivent porter une attention particulière à ne pas faire de la course aux biens matériels le but de leur vie. Voici cinq raisons pour ne pas le faire. Cette pratique de faire de la course aux biens matériels le but de la vie, c'est une pratique qui est païenne. Acte 19, versets 24 à 27, un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, « Ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. » Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier soit réduite à néant. Donc, lui, la question des statues à Diane, c'était uniquement une question de faire de l'argent, une question de garder, de bâtir sa fortune. 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Devant des choix, Les chrétiens devraient toujours privilégier ce qui contribuera le plus à les garder le plus proche du Seigneur, même au prix d'un gain financier moindre. Alors, le deuxième point qu'on va regarder, nous devons viser le plus grand bien public dans nos occupations ou nos métiers. Nous devons travailler pour le bien de l'Église, le bien de l'État, et non prioritairement pour notre gain personnel. On a des exemples dans Néhémie, par exemple. Néhémie, chapitre 2, verset 10. Sanballat, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Alors, Néhémie ne travaillait pas pour son bien personnel, mais c'était pour le bien du peuple. Esther, chapitre 10, verset 3. Car le juif Mardoché était le premier, après le roi Assuérus, considéré parmi les juifs et aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 14 et 15. Voici, pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche. C'est vous-même. Ce n'est pas, en effet, aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes, dussé-je, en vous aimant davantage, à être moins aimé de vous. Troisième point, vouloir devenir riche va à l'encontre du grand principe biblique du renoncement à soi-même. Matthieu, chapitre 16, versets 24 à 26. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Philippiens, chapitre 2, versets 20 et 21. « Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Nous avons tous la tendance à ne penser qu'à nous-mêmes, notre honneur, notre profit, notre plaisir. Le renoncement à soi-même est une vérité glorieuse que tout chrétien doit mettre en pratique, sinon il n'est pas un véritable disciple de Christ. Quatrièmement, c'est aller directement à l'encontre de la Bible que de faire de la course au bien matériel notre but dans la vie. Proverbes 23, versets 4 et 5. Ne te tourmente pas t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes et, comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Et cinquièmement, nous devons suivre notre appel à glorifier Dieu, que nous y trouvions un gain ou non. Éphésiens, chapitre 6, versets 5 à 9. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Colossiens, chapitre 3, versets 23 à 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Alors, j'ai mis trois petites applications. implorons le Seigneur de nous sonder et de nous montrer comment utiliser le monde bibliquement, et aussi de nous révéler nos manquements et nos dérapages. Deuxièmement, prions tous les jours que le Seigneur nous donne une vision équilibrée de l'usage des choses de la création et de nous rappeler sans cesse de le mettre toujours en priorité. Surveillons-nous, car nous sommes portés aux convoitises de toutes sortes, et demandons des grâces préventives. Troisièmement, rappelons-nous constamment que la gloire de Dieu doit être notre raison de vivre et notre souci principal. Que notre grand Dieu soit béni, loué et exalté pour son infinie bonté à notre égard.